Étienne Gros-Claude, la jolie parfumeuse. Monsieur Jérôme Le Canasson est célibataire. C'est même un des types les plus accomplis du genre aux vieux garçons. Il s'avance automatiquement dans l'existence, comme un wagon entre les rails, en s'arrêtant aux stations, voire au buffet déterminé par son indicateur officiel, l'habitude, sans jamais rien livrer à l'imprévu. Et encore, les accidents sont-ils infiniment plus rares dans sa vie que sur certaines lignes de chemin de fer. Chaque matin, sur le coup de 8h40, M. Le Canasson descend son escalier et enfile la rue des Dames. Car est-il bien nécessaire de le mentionner ? Cet homme d'ordre habite Batignolles. L'omnibus de l'Odéon le dépose près du palais Mazarin, où il occupe, dans les bureaux de l'Académie des sciences, la position honorable mais peu lucrative de conservateur des hypothèses, ce qui n'est pas une sinécure. Au bout de 2h30 d'un travail modéré, mais suivi, M. Le Canasson se dirige d'un pas mesuré vers un établissement de Bouillon où son arrivée remplace avantageusement le canon du Palais Royal pour la mise au point du chronomètre. Il y déjeune hygiéniquement, allume un modeste cigare en sirotant un humble demi-tasse, après quoi il se livre aux douceurs d'une promenade digestive. Son immuable itinéraire le conduit à l'entrée d'un établissement de médiocre apparence dont l'enseigne d'un style sévère porte pour toute indication un chiffre symbolique de centimes qui seul me dispense d'en dire plus long. Je considère comme inutile d'ajouter que cet humble asile se dissimule à l'ombre d'un passage. Après un court séjour dans ce petit local, M. Le Canasson, la mine épanouie, vient présenter discrètement une modeste rétribution à la dame du comptoir, qui s'entretient galamment avec lui pendant quelques minutes. Puis il reprend le chemin du bureau. Ce serait fastidieux de poursuivre plus longtemps le détail d'une existence aussi métronomique. Que me permettent seulement d'en signaler certaines particularités qui justifient, comme c'est le rôle des exceptions, la règle générale de ce bureaucratique. En vertu d'un excellent précepte sanitaire, chaque samedi matin, M. Le Canasson se rafraîchit le tube digestif avec une demi-bouteille d'eau d'Imiadigenos. Le même jour, par une étrange coïncidence, il fait deux visites au lieu d'une au petit établissement du passage. Dans un tout autre ordre d'idées, M. Le Canasson s'offre à date déterminée certaines distractions permises telles que le théâtre 4 fois par an, le cirque au 1er janvier et le bal de l'opéra à la mi-carême. Cette année donc, le soir du dernier bal, M. Le Canasson, fidèle au poste, gravissait solennellement le merveilleux escalier qui mène les habits noirs dans la salle des fêtes, après avoir conduit son architecte à celui de la renommée, comme qu'il irait touche à tout, quand une petite main finement gantée se posa sur son épaule. Cette main appartenait par droit de naissance à une jolie parfumeuse dont le regard étincelant sous le loup de velours noir frappa M. Le Canasson d'une stupeur bien naturelle. C'était en effet la première fois que cet homme d'ordre rencontrait une aventure. Depuis 37 ans qu'il venait à l'opéra, la mystérieuse petite femme portait avec beaucoup de charme son délicieux costume. Elle remplissait peut-être même un peu trop. Consciencieusement, mais Ce léger embonpoint n'avait rien de bien déplaisant. Ce fut du moins l'avis du conservateur des hypothèses, qui se laissa prendre le bras et suivit sa conquête, qui, ou pour mieux dire, sa conquérante, à travers la foule. Ce fut une véritable intrigue à la manière du temps jadis. La dame au loup fit bien vite croire à son cavalier de rencontre qu'elle connaissait sur le bout du doigt les moindres détails de son existence, après quoi elle l'entraîna facilement dans un cabinet où l'on soupe. À peine arrivé dans le cabinet particulier, M. le Canasson, comme le prescrit le règlement de ce genre de plaisir, se mit à supplier le beau masque de faire voir ses traits adorés par continence, masse. La jolie parfumeuse se défendit plus vivement qu'il n'en est coutume de le faire. « Prenez garde, lui dit-elle, craignez de briser votre joujou. Qui sait si vous m'aimerez autant quand vous aurez vu mon visage ?»« Je ne sais quoi, me dit, que vous êtes bien belle, murmurait le soupirant, affolé d'amour et de curiosité. Vous êtes une grande dame. » Nenni, répliquait la soupeuse, en cinglant une chiquenaude d'une main qui la chiffonnait de trop près. Une actrice, au point du tout. Alors une femme de plaisir. Aucun nom pas. Je gagne ma vie par un travail pénible, mais honorable. Le pauvre homme se convulsionnait vainement en imagination. Et après avoir épuisé la série des suppositions possibles, ni modiste, ni fleuriste, ni corsetière, etc., il allait donner sa langue au chat quand, jetant son loup d'un geste brusque, la jolie parfumeuse lui fit reconnaître. Devinez qui ? La dame du petit local où M. le Camasson venait chaque jour passer quelques instants après son déjeuner. Ce fut un coup de foudre. Vous dans ces lieux ? S'écria l'homme d'ordre avec un accent où la sévérité perçait sous la stupéfaction. Mais je vous aime, monsieur Jérôme. C'est pour vous que je suis venu, dans l'espoir de vous rencontrer, d'oser ici vous faire des aveux qui chaque jour là-bas s'arrêtaient sur mes lèvres. Et elle disait ces mots avec une passion si vraie que M. le Canasson resta rêveur sans trouver rien à lui répondre. « Oh, mon Jérôme » continua-t-elle avec feu. « Mes intentions sont pures. Oh, ce n'est pas aujourd'hui que date mon amour. La première fois que je vous vis, tout mon être a tressailli en recevant de votre main le modique salaire. J'avais envie de vous dire « Oh, revenez, monsieur, revenez pour rien, s'il le faut. » Et depuis lors, oh, vous ne saurez jamais tout ce que j'ai souffert quand je vous sentais près de moi. Me repousseriez-vous ? J'en mourrais. Oh, ce serait si bon d'être votre femme. Oh, ne dites pas non. Vous viendrez habiter là-bas, dans les passages, mon petit entresol. » Au-dessus du bureau, nous partagerons nos devoirs comme nos plaisirs. Le travail nous portera bonheur et nous vivrons à l'abri des besoins. Et puis, quelle satisfaction perpétuelle pour votre nature d'artiste. Ma clientèle fourmille de gens de lettres, de peintres et de journalistes. Autant de belles relations pour vous. Nous avons un grand romancier naturaliste qui passe sa vie dans la maison à la recherche du document humain. Oh, je suis sûr qu'il vous adorera. Et le petit ténor italien qui possède un si bel poitrine. Oh, vous ne manquerez pas de billets de théâtre avec lui. Il en a tant qu'il en oublie souvent là-bas. Ce sont les clients qui en profitent. Monsieur le Canasson était rêveur. Et après un long silence, tenant enfin les bras à la jolie parfumeuse, il déposa sur son front virginal le chaste baiser des fiançailles en disant d'une voix émue « Oh, vous êtes bien l'épouse qu'il me faut !» À cet aveu tant désiré, la jeune femme s'évanouit. Son cavalier servant la fit revenir à elle en lui donnant à respirer le petit flacon de sels anglais qui ne la quittait jamais. Puis on fixa la date du mariage et M. Le Canasson reconduisit sa fiancée jusqu'à la porte du passage. Oh, ce fut une délicieuse promenade au clair de lune, pendant laquelle ils firent de charmants projets d'avenir. « Comme nous serons heureux là-bas !» disait la belle énamourée. « Oh, je vais bien vite faire venir les maçons et les peintres pour installer confortablement notre petit ménage. »« Oui, » répondit M. Le Canasson, « et pour éviter l'odeur de la peinture que je ne fais pas souffrir, nous ferons, si vous le voulez, un petit voyage de noces. » Et comme nos moyens ne nous permettent pas d'aller en Suisse, nous louerons pour quelques semaines de ces élégants chalets que la municipalité vient de faire établir sur les boulevards extérieurs. Ah oui, fit-elle, ravie, un chalet pour notre lune de miel, mais c'est de toute nécessité.